Les contes de l'Alhambra, ma chambre. Quand il fut arrêté que je logerais à l'Alhambra, on prépara pour me recevoir l'appartement de construction moderne destiné au gouvernement. Il occupait la façade du palais qui regarde l'esplanade et communiquait à un groupe de petites pièces, moitié mauresques, moitié modernes, habitées par Tia Antonia et sa famille, et terminées par une grande salle servant tout à la fois de salon, de cuisine et de salle d'audience à la bonne dame. Cette salle avait été probablement très magnifique du temps des morts, mais la fumée de la cheminée que l'on avait bâtie dans un coin avait terni la couleur des murs, gâté les ornements et répandait une teinte sombre sur le tout. Un corridor étroit et obscur conduisait de ce triste appartement à un escalier tournant, à peine éclairé, pratiqué dans un angle de la tour de Comares. En ouvrant une petite porte au milieu de cet escalier, on était ébloui en se trouvant soudain dans la brillante antichambre de la salle des ambassadeurs, ayant en face de soi la fontaine jaillissante de la cour de l'Alberca. Peu satisfait de mon logement tout moderne, et désirant quitter la frontière et m'enfoncer dans le cœur du vieil édifice, je remarquai un jour, en parcourant les salles mauresques, une petite porte que je n'avais pas encore aperçue. Cette porte communiquait à un grand appartement fermé au public. Il y avait donc là quelque mystère. C'était là sans doute la partie du monument hantée par les esprits. Cependant, j'obtins la clé de la petite porte sans difficulté et je vis qu'elle conduisait à une longue suite de pièces d'architecture européenne, quoique bâties sur un portique arabe, qui règne autour du petit jardin de l'Indaraxa. Deux vastes chambres avaient des plafonds en bois de cèdre, richement ornés de fleurs et de fruits entremêlés de masques et de figures fantastiques. Le tout très artistement sculpté, mais brisé en plusieurs places. Les murs paraissaient avoir été autrefois tendus en damas, mais leurs panneaux dépouillés n'étaient maintenant couverts que par les noms insignifiants de voyageurs vaniteux. Les fenêtres délabrées qui laissaient pénétrer le vent et la pluie donnaient sur le jardin de l'Indaraxa, et les branches des orangers et des citronniers s'étendaient jusque dans la chambre. Après ces deux pièces, l'on trouvait deux salons moins grands donnant aussi sur le jardin. Dans les compartiments de la boiserie de leur plafond, des corbeilles de fruits et des guirlandes de fleurs étaient peintes à fresque dans le style italien par une main habile. Les couleurs de ces peintures étaient assez bien conservées, mais celles des murs étaient presque effacées et les fenêtres étaient en aussi mauvais état que dans les autres chambres. Cet appartement singulier se terminait par une galerie ouverte, avec des balustrades qui suivaient à angle droit l'autre côté du jardin. Une certaine recherche élégante dans les décorations, jointe à la position retirée et tranquille de ces chambres, me donnèrent le désir de savoir leur histoire. J'appris qu'elles avaient été arrangées par des artistes italiens au commencement du dernier siècle, quand Philippe V et la belle Élisabeth de Parme étaient attendues à l'Alhambra et qu'elles étaient destinées à la reine et aux dames de sa suite. Une des grandes pièces était la chambre à coucher de cette princesse, et un petit escalier, maintenant muré, conduisait de là au Mirador, ou belvédère des sultanes morts, dont on avait fait un cabinet de toilette pour Élisabeth, et qui conserve le nom de Tocador, ou toilette de la reine. La chambre à coucher ci-dessus mentionnée découvrait par l'une de ses fenêtres le Generalife et ses terrasses ombragées. Et devant l'autre fenêtre jouait la fontaine d'albâtre du jardin de Lindaraxa, dont la vue conduisit mes pensées à l'époque bien plus reculée d'un autre règne de beauté. « Combien il est beau, dit une des inscriptions arabes, ce jardin où les fleurs de la terre rivalisent avec les étoiles du firmament. Que peut-on comparer au vase de cette fontaine d'albâtre remplie d'eau cristalline? Rien autre chose que la lune dans son plein, resplendissante au milieu d'un ciel sans nuages. Des siècles ont passé. Cependant, une grande partie des beautés de ce lieu, de ces beautés en apparence si fragiles, existe encore. Le jardin de Lindaraxa est toujours orné de fleurs. Sa fontaine présente toujours son miroir de cristal. L'albâtre, il est vrai, a perdu sa blancheur. Le bassin, caché sous les mauvaises herbes, est devenu le repère des lézards. Mais ces marques de déclin accroissent encore l'intérêt de la scène en éveillant l'idée des changements et de la décadence auxquels l'homme et tous ses ouvrages sont irrévocablement soumis. De même, la désolation de ces chambres, autrefois habitées par la fière, l'élégante Élisabeth, leur donnait à mes yeux un charme plus touchant que si je les avais contemplés dans leur première splendeur, au milieu des pompes d'une cour. Je me déterminai tout à coup à prendre mes quartiers dans cet appartement. Ma détermination causa la plus grande surprise à la famille, qui ne pouvait imaginer aucun motif raisonnable pour choisir un appartement aussi triste, aussi écarté. La bonne tia Antonia voyait même du danger à l'habiter. « Le voisinage, disait-elle, est infesté de bandits. Les cavernes des collines adjacentes sont pleines de bohémiens. On peut pénétrer dans le palais ruiné par plusieurs endroits. Et la nouvelle d'un étranger, logé seul dans un des appartements trop éloignés des autres, pour que l'on puisse de là être entendu, en cas d'attaque, par le reste des habitants, peut attirer quelques visiteurs nocturnes, d'autant plus que l'on croit généralement que les étrangers ont une bourse bien garnie. Dolores, de son côté, me représentait la solitude effrayante du lieu, qui n'était habitée que par les chauves-souris et les hiboux, que l'on voyait voler au-dessus du jardin aussitôt que le soleil était couché. Elle me parla aussi d'un renard et d'un chat sauvage qui se retirait sous les voûtes et criait toute la nuit. Rien ne put cependant me faire renoncer à cette fantaisie. Et bientôt, à l'aide d'un charpentier et de l'officieux Matteo, les fenêtres et les portes furent suffisamment réparées pour la sûreté. Malgré ces précautions, j'avoue que la première nuit que je passai dans cet appartement isolé fut vraiment terrible. Toute la famille m'accompagna le soir jusqu'à ma chambre, et les adieux qu'ils me firent, leurs pas que j'entendais dans la vaste antichambre et le long des galeries retentissantes, me rappelaient ces romans où le héros est laissé seul pour achever une aventure dans un château enchanté. Le souvenir de la brillante Élisabeth et des beautés de sa cour, qui d'abord avait donné tant d'attrait à ses chambres, ajoutait maintenant à leur tristesse. Ses murs les avaient vus, dans tout l'éclat de leur charme passager, jouir des plaisirs que le monde offre à la jeunesse et à la grandeur. On y voyait encore les traces de l'élégance dont elles étaient entourées. Mais elles, qu'étaient-elles devenues? Cendres et poussière, dans la tombe, vingt fantômes dans la mémoire des hommes. Une terreur vague, indéfinissable, s'emparait de moi. J'aurais voulu l'attribuer à la pensée des voleurs, éveillée par les conversations de la soirée. Mais je sentais que c'était quelque chose de moins réel, de moins raisonnable. En un mot, les impressions des contes de nourrice, depuis si longtemps effacées, se ravivaient et reprenaient leur pouvoir sur mon imagination. Bientôt mon esprit malade travailla sur tous les objets présents. Le souffle du vent dans les citronniers, au-dessous de ma fenêtre, me parut un bruit sinistre. Je jetai les yeux sur le jardin de l'Indaraxa. Ces bosquets me firent l'effet d'un gouffre, d'une effrayante obscurité. Les buissons avaient l'apparence d'ombres informes. Je me hâtai de fermer la fenêtre, mais ma chambre était également infestée. Une chauve-souris s'y était introduite et volait au-dessus de ma tête et à travers ma lampe solitaire. Les figures bizarres du plafond paraissaient me narguer et se moquer de moi. Cependant, souriant à demi de ma faiblesse, je résolus de la braver. Et, prenant ma lampe, je sortis pour faire une tournée dans cette partie du palais. En dépit des efforts de ma raison, je ne persistais pas dans mon entreprise sans difficulté et sans frayeur. La lumière de la lampe ne s'étendait qu'à quelques pas devant moi. Au-delà, ce n'était que profondes ténèbres. Les corridors voûtés semblaient des cavernes. Les plafonds des salles se perdaient dans l'obscurité. Un ennemi inaperçu pouvait être à mes côtés. Devant moi, derrière moi. Mon ombre flottant sur les murs, le bruit même de mes pas me faisait tressaillir. Comme je traversais la salle des ambassadeurs dans cet état d'excitation, des sons réels vinrent ajouter à mes craintes imaginaires. J'entendis de sourds gémissements, des accents indistincts, au-dessous du sol sur lequel je marchais. Je m'arrêtai pour écouter. Ils me parurent alors résonner en dehors de la tour. Quelquefois, ils ressemblaient au hurlement d'un animal, d'autres fois à des cris aigus, mêlés d'imprécations articulées. L'effet horrible de ces sons, à une heure et dans un lieu semblable, me dissuada de continuer ma ronde. Je retournai dans ma chambre plus vite que je n'en étais sorti, et ne respirai librement que lorsque j'en eus fermé sur moi les verrous. Quand je m'éveillai, le lendemain, le soleil dardait à travers ma fenêtre, éclairant toute la pièce de ses rayons vivifiants. Je me rappelai confusément les chimères, les ombres que la nuit précédente avait conjurées. Et ne concevait pas comment mon imagination avait pu voir tant d'objets d'horreur sur ces murs tout unis que l'œil pouvait parcourir si facilement d'un seul regard. Cependant, les hurlements, les exclamations n'étaient pas imaginaires, mais ils me furent expliqués par ma jeune chambrière. Ils venaient d'un pauvre maniaque, frère de sa tante, que l'on enfermait pendant les accès de son mal dans une chambre voûtée sous la salle des ambassadeurs.